VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. RDC, les travaux du deuxième dialogue national se poursuivent en commission. Bien que les discussions se déroulent à huis clos, on sait maintenant que les tractations entre la majorité présidentielle et l'opposition achoppent sur la date des élections et le retour au pays de l'opposant Moïse Katumbi. Martin Fayoulou du Rassemblement d'opposition donne des détails.
Nous avons écouté la CENI. L'après-midi, nous allons revenir pour lever les options politiques. Et à partir de ces options, nous allons décider. En tout cas, nous, au Rassemblement, nous avons dit que les élections doivent avoir lieu en 2017. Ça, c'est un. De deux, il faut coupler l'élection présidentielle et les législatives nationales, comme ce fut le cas en 2011. Trois, ces deux élections auront lieu pour nous les 10 septembre 2017.
Martin Fayoulou du Rassemblement d'opposition. Propos recueillis par nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. RDC toujours, le président congolais Joseph Kabila et sa famille ont constitué un empire économique qui leur a rapporté des centaines de millions de dollars. Selon une enquête publiée ce jeudi par l'agence Bloomberg, à 5 jours de la fin du mandat du chef de l'État congolais. Ensemble, les Kabila ont bâti un réseau d'entreprises qui s'étend dans tous les secteurs de l'économie congolaise, écrit l'agence de presse américaine spécialisée dans les questions économiques. Selon Bloomberg, depuis 2003, la famille Kabila a mis en place un réseau international d'affaires avec des participations dans 70 entreprises au moins. Le président Kabila, sa femme, ses 2 enfants et 8 de ses frères et sœurs contrôlent ainsi plus de 120 permis d'extraction d'or, de diamants, de cuivre, de cobalt et d'autres minerais en RDC, ajoute l'article de Bloomberg. Outre les mines, l'empire familial s'étend dans la banque, l'agriculture, la distribution de carburant, le transport aérien, la construction de routes, l'hôtellerie, la fourniture de produits pharmaceutiques, le secteur des agences de voyage, le commerce et les boîtes de nuit, précisent les auteurs de l'enquête, parlant d'entreprises installées non seulement en RDC, mais aussi en Tanzanie, aux États-Unis et à Panama notamment. En Ouganda, inculpation mercredi de 152 personnes pour trahison, dont un souverain local. C'est à la suite des violences qui avaient fait au moins 47 morts fin novembre dans la région de Kasese, dans l'ouest du pays. Eric Maniraquiza.
Selon leur avocat, le roi de Rwenzururu, Charles Wesley Mombele, a été inculpé hier avec 151 autres personnes pour trahison par le tribunal de Jinja, à l'est de Kampala. Maître Evans Ochieng a ajouté que ses clients, dont le roi, nient les accusations et ont été tous renvoyés en détention. Le roi était apparu seul hier devant le juge qu'il avait inculpé pour terrorisme, vol aggravé et meurtre. Ces chefs d'inculpation sont passibles de la peine capitale au pays de Yoweri Museveni. Le 26 novembre, des gardes du souverain proches d'un mouvement séparatiste ont attaqué des policiers et prônent la création d'une république de Hira entre l'Ouganda et le Nord-Kivu en RDC. La police avait interpellé le roi du Rwenzururu après l'assaut contre le palais royal pour mettre fin au combat. Le bilan officiel est d'au moins 87 morts, mais la population locale affirme qu'il y a eu plus de 100 morts.
Afrique de l'Ouest maintenant, Gambie, l'ONU réclame instamment que les forces de sécurité gambiennes quittent les locaux de la commission électorale indépendante qu'elles ont occupé le jour de la visite d'une délégation de chefs d'État d'Afrique de l'Ouest à Banjul. Le point avec Eddy Sango.
Le secrétaire général sortant de l'ONU a condamné hier l'intervention des forces de sécurité gambiennes contre la commission électorale indépendante de la Gambie. Il a demandé aux militaires et policiers de quitter immédiatement les locaux de la commission. Ban Ki-moon a appelé les forces de sécurité à s'abstenir des tout nouveaux actes qui menaceraient les efforts pour instaurer un transfert pacifique du pouvoir. Ces forces ont assiégé la commission électorale mardi pendant qu'une délégation des 4 chefs d'État africains s'est trouvée à Banjul pour convaincre le président sortant Yahya Jammeh de céder le pouvoir à son successeur élu Adama Barrow. Pour Ban Ki-moon, c'est un manque scandaleux de respect de la volonté du peuple gambien et un défi à la communauté internationale. L'ONU demande au président Jammeh de céder le pouvoir à Adama Barrow en janvier.
Les ressortissants africains refoulés d'Algérie ont commencé à regagner leurs pays respectifs en passant d'abord par le Niger, notamment la ville d'Agadez. Sur place, notre correspondant Abdoul Razak Idriss a rencontré quelques-uns d'entre eux qui lui ont raconté leur calvaire.
Chantal Mabiala, congolaise de 35 ans, et Kanga Kwasi Philippe, ivoirien de 46 ans, se souviennent encore des conditions horribles dans lesquelles ils ont été traités avant leur expulsion.
Là où je suis fouti.
Ah, ça c'était pénible. Où je suis là, je n'ai même pas un rond.
À la sortie ouest de la ville d'Agadez, la plupart des près de 900 migrants rapatriés d'Algérie sont encore sous le choc. Depuis trois jours qu'ils sont là, ils se sentent davantage humiliés que lorsqu'ils étaient traqués en terre algérienne pour être rapatriés. Kanga Mana et Edwige sont de nationalité camerounaise.
On n'a même pas prévu de nappe pour nous. Nous, on est plus que des criminels. On est gardés par la police.
Moi, je suis enceinte. Quel suivi j'ai ici, je ne sais pas.
Depuis le 12 décembre, ces expulsés sont acheminés à Niamey, d'où des véhicules les prennent chacun pour son pays d'origine. Abdoul Razak Idrissa à Agadez pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le Soudan du Sud, toujours dans la tourmente, après avoir brièvement entrevu la fin de la guerre civile déclenchée le 15 décembre 2013, le Soudan du Sud a assisté ces derniers mois à l'implosion du processus de paix et au retour des violences à grande échelle qui font maintenant craindre une dérive génocidaire. Les tueries à caractère ethnique ont redoublé ces derniers mois, notamment dans la ville de Yeye et ses environs en Équateur central, poussant des dizaines de milliers de personnes à se réfugier en Ouganda voisin. La pression internationale a contraint le gouvernement sud-soudanais à accepter le déploiement à Djouba d'une force de maintien de la paix additionnelle, forte de 4000 hommes sous mandat de l'ONU, mais les modalités de ce déploiement et son calendrier restent incertains. Égypte, les autorités égyptiennes ont exécuté aujourd'hui un djihadiste condamné à mort pour le massacre de 25 policiers dans la péninsule du Sinaï en 2013. C'est ce que rapportent les médias d'État. Adel Abara a été pendu dans une prison du Caire quelques jours après la confirmation de sa condamnation à la peine capitale. Il avait été condamné pour avoir participé à une attaque au cours de laquelle 25 policiers avaient été tués dans le nord du Sinaï. L'exécution d'Adel Abara intervient après la revendication mardi par le groupe État islamique de l'attentat à la bombe contre une église copte au Caire qui a fait 25 morts dimanche. Ici aux États-Unis, dans le scandale de l'eau empoisonnée à Flint, les populations pointent du doigt un coupable, le gouverneur du Michigan, Rick Snyder, dont les décisions ont conduit au désastre. Les détails avec Nastasia Peteuil.
Rien qu'à entendre le nom du gouverneur, de nombreux visages se crispent à Flint. Pour les habitants, il est en partie responsable de la situation. Un journaliste de Michigan Radio a suivi la crise depuis les débuts. Steve Carmody explique pourquoi le gouverneur est accusé d'être la source du problème.
Snyder est de plus en plus isolé, car beaucoup de gens le montrent du doigt. Il a nommé l'administrateur d'urgence qui a pris la décision de faire le changement, et il a aussi nommé l'administrateur qui a continué à faire le changement malgré les problèmes.
Pour l'instant, 9 employés de l'État ont été accusés d'avoir caché l'ampleur du problème. Mais le procureur, dans ses poursuites, ira-t-il jusqu'au gouverneur lui-même ? Pour Steve Carmody, rien n'est encore certain.
Si vous regardez parmi les gens qui ont été inculpés, ça commence tout en bas de la hiérarchie et ça remonte vers le haut. Jusqu'où cela ira-t-il ? Nous ne le savons pas encore.
Les habitants de Flint accusent l'État du Michigan et le gouverneur de n'avoir pas réagi efficacement face à la crise. Des militants viennent de poursuivre en justice le Michigan pour le forcer à fournir des bouteilles d'eau dans toutes les maisons. Mais l'État a fait appel.
Conflit en Syrie, quelques 4000 rebelles ainsi que leurs familles seront évacués d'Alep. Les préparations pour cette opération sont en cours ce jeudi. La perte d'Alep représente un revers cuisant pour la rébellion qui avait conquis la partie orientale de la deuxième ville de Syrie en 2012, mais se retrouve aujourd'hui confinée dans quelques secteurs après une offensive foudroyante du régime du président Bachar al-Assad lancée à la mi-novembre. Et pour terminer, Irak, la cité antique irakienne de Nimrod, vandalisée par le groupe État islamique, a subi des dommages considérables, selon une mission d'évaluation de l'UNESCO qui préconise des mesures d'urgence pour sauvegarder ce qui reste du site. Le site archéologique de Nimrod est un joyau de l'Empire assyrien fondé au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, le long du fleuve Tigre. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.